Anatole France, la tétralogie Histoire contemporaine, premier roman, L'orme du Mail. Chapitre 1er. Le salon où se tenait le cardinal archevêque pour recevoir les visites avait été revêtu sous Louis XV de lambris de bois sculpté peint en gris clair. Des figures de femmes assises parmi des trophées occupaient les angles des corniches. Sur la cheminée, la glace en deux morceaux était couverte, à sa partie inférieure, d'une draperie de velours cramoisi, sur laquelle une Notre-Dame de Lourdes s'enlevait toute blanche avec sa jolie écharpe bleue. Le long des murs, au milieu des panneaux, étaient suspendues des plaques d'émail encadrées de peluches groseilles, des portraits imprimés en couleur des papes Pie IX et Léon XIII et des ouvrages brodés, souvenirs de Rome ou dons des dames pieuses habitant le diocèse. Des modèles en plâtre d'églises gothiques ou romanes chargeaient les consoles dorées. Le cardinal archevêque aimait les bâtiments. De la rosace rocaille pendait un lustre mérovingien exécuté sur les plans de M. Quatrebarbe, architecte diocésain, chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire. Monseigneur, retroussant sa soutane sur ses bas rouges et chauffant au feu ses jambes courtes et fermes, dictait un mandement, tandis qu'assis à la grande table de cuivre et d'écaille, surmontée d'un crucifix d'ivoire, M. de Goulet, vicaire général, écrivait « Afin que rien ne vienne attrister dans nos âmes les joies du Carmel ». Monseigneur dictait d'une voix blanche, sans onction. C'était un très petit homme, portant droit sa grosse tête et sa face carrée que l'âge avait amollie. Son visage, avec des traits vulgaires et grossiers, exprimait la finesse et une espèce de dignité faite de l'habitude et de l'amour du commandement. « Les joies du Carmel, ici vous développerez des idées de concorde, de pacification des esprits, de soumission, si nécessaire, aux pouvoirs établis que j'ai déjà exprimés dans mes précédents mandements. » M. de Goulet releva sa tête longue, pâle et fine, que ses beaux cheveux bouclés ornaient comme d'une perruque Louis XIV. « Mais cette fois, dit-il, ne convient-il pas, en renouvelant ses déclarations, d'observer la réserve que comporte la situation des pouvoirs civils, ébranlés par des crises intestines et incapables désormais de donner à leurs alliances ce qui n'est pas en eux, je veux dire la suite et la durée, car vous n'êtes pas sans savoir, monseigneur, que le déclin du parlementarisme... » Le cardinal archevêque secoua la tête. « Sans réserve, monsieur de Goulet, sans réserve d'aucune sorte. Vous êtes plein de science et de piété, monsieur de Goulet, mais votre vieux pasteur peut encore vous donner quelques leçons de prudence, avant de livrer par sa mort à votre jeune énergie le gouvernement du diocèse. » N'avons-nous pas à nous louer de monsieur le préfet Worms Clavelin, qui regarde favorablement nos écoles et nos œuvres? Ne recevons-nous point demain à notre table le général commandant la division et monsieur le premier président? À ce propos, montrez-moi le menu. Le cardinal archevêque l'examina, le corrigea, l'augmenta et fit la recommandation expresse de demander du gibier à Rivoire, le braconnier de la préfecture. Un domestique vint lui présenter une carte dans un plateau d'argent. Monseigneur, ayant lu sur la carte le nom de M. l'abbé Lantaigne, supérieur du grand séminaire, se tourna vers son vicaire général. « Je gage, dit-il, que M. Lantaigne vient encore se plaindre à moi de M. Guitrel. » L'abbé de Goulet se leva pour sortir du salon, mais Monseigneur le retint près de lui. « Demeurez, je veux que vous partagiez avec moi le plaisir d'entendre M. Lantaigne, qui passe, vous le savez, pour le premier orateur du diocèse. Car, à n'interroger que la voix publique, il prêcherait mieux que vous, cher monsieur de Goulet. Mais ce n'est pas mon avis. Entre nous, je n'estime ni sa parole enflée, ni sa science confuse. Il est cruellement ennuyeux, et je vous garde pour m'aider à le congédier au plus vite. » un prêtre de haute taille, de vaste corpulence, grave, très simple, le regard en dedans, entra dans le salon et salua. À sa vue, Monseigneur s'écria joyeusement eh, « Bonjour, monsieur l'abbé Lanteigne. Au moment même où vous vous êtes fait annoncer, monsieur le vicaire général et moi, nous parlions de vous. Nous disions que vous êtes l'orateur le plus éminent du diocèse et que votre carême prêché à Saint-Exupère témoigne hautement de votre grand talent et de votre grande science. » L'abbé Lanteigne rougit. Il était sensible à la louange, et c'est seulement par la porte de l'orgueil que l'ennemi pouvait entrer dans son âme. « Monseigneur, répondit-il, le visage éclairé d'un sourire qui s'effaça vite, l'approbation de votre éminence me cause une joie précieuse qui vient heureusement adoucir le début d'un entretien pénible pour moi, car c'est une plainte que le supérieur du grand séminaire a la douleur d'apporter à vos oreilles paternelles. » Monseigneur l'interrompit. « Dites-moi, monsieur Lanteigne, ce carême de Saint-Exupère a-t-il été imprimé ? Il a été analysé dans la semaine religieuse du diocèse. Je suis touché, monseigneur, des marques d'intérêt que vous voulez bien accorder à mes travaux apostoliques. Hélas, il y a longtemps déjà que je monte dans la chaire de vérité. En 1880, je donnais à monsieur Roquette, élevé depuis lors à l'épiscopat, mes sermons quand j'en avais trop. « Ah !» s'écria Monseigneur en souriant, « ce bon monsieur Roquette, étant allé l'année dernière ad limina apostolorum, je rencontrai une première fois monsieur Roquette qui se rendait plein de joie au Vatican. Je le retrouvai 8 jours après dans la basilique de Saint-Pierre où il puisait les consolations dont il avait besoin après s'être vu refuser le chapeau. » « Et pourquoi ?» demanda M. Lanteigne d'une voix qui sifflait comme un fouet. « Pourquoi la pourpre se serait-elle abattue sur les épaules de ce pauvre homme, médiocre par les mœurs, nul par la doctrine, ridicule par l'épaisseur de son esprit, recommandable seulement pour avoir mangé du veau avec M. le président de la République dans un banquet de francs-maçons ? M. Roquette, s'il pouvait s'élever au-dessus de lui-même, s'étonnerait d'être évêque. » En ces temps d'épreuves, en face d'un avenir mêlé de 12 promesses et de terribles menaces, il conviendrait de former un clergé puissant par le caractère et par le savoir, et c'est précisément, monseigneur, d'un prêtre incapable de porter le poids de ses grands devoirs, d'un autre Roquette, que je viens entretenir votre éminence. Le professeur d'éloquence au grand séminaire, monsieur l'abbé Guitrel. Monseigneur interrompit avec une feinte étourderie et demanda en riant si monsieur l'abbé Guitrel était en passe de devenir évêque à son tour. « Quelle pensée, monseigneur !» s'écria l'abbé Lanteigne. « Si cet homme s'élevait d'aventure à l'épiscopat, on reverrait les jours de Cotinus quand un pontife indigne souillait la chair de Saint-Martin. » Le cardinal archevêque, pelotonné dans son fauteuil, dit avec bonhomie « Cotinus, l'évêque Cotinus !» C'était la première fois qu'il entendait prononcer ce nom. « Cotinus, qui occupa le siège de Saint-Martin. Êtes-vous bien sûr que ce Cotinus ait tenu une conduite aussi mauvaise qu'on le prétend ? C'est un point intéressant de l'histoire ecclésiastique des Gaules, sur lequel je serais curieux d'avoir l'opinion d'un aussi savant homme que vous, monsieur Lanteigne. » Le supérieur du grand séminaire se redressa. « Monseigneur, le témoignage de Grégoire de Tours est formel à l'endroit de l'évêque Cotinus. » Ce successeur du bienheureux Martin affecta un tel luxe et dilapida de telle façon les trésors de la basilique qu'au bout de 2 ans de son administration, tous les vases sacrés étaient aux mains des Juifs de Tours. Et si j'ai rapproché le nom de Cotinus de celui du malheureux monsieur Guitrel, ce n'est pas sans raison. Monsieur Guitrel rafle les objets d'art, boiseries, vases artistiquement ciselés, qui se trouvent encore dans les églises de campagne, à la garde de fabriciens ignorants, et c'est au profit des Juifs qu'il se livre à ce pillage. « Au profit des Juifs ? » demanda Monseigneur. « Que me dites-vous là ?»« Au profit des Juifs !» reprit l'abbé Lanteigne, « et pour enrichir les salons de monsieur le préfet Vlomsklavelin, israélite et franc-maçon. » Madame Worms-Clavelin est curieuse d'objets anciens. Par l'intermédiaire de Monsieur Guitrel, elle a acquis des chapes consacrées depuis 3 siècles dans la sacristie de l'église de Luzancy. Elle en fait des sièges, m'a-t-on dit, de cette sorte qu'on nomme pouf. Monseigneur hocha la tête. Pouf! Mais si l'aliénation de ces ornements hors d'usage a été faite régulièrement, je ne vois pas que l'évêque continue, je veux dire monsieur Guitrel, ait forfait en s'entremettant dans cette opération légitime. Il n'y a pas lieu de vénérer comme relique des saints ces chapes des pieux curés de Luzancy. Ce n'est pas un sacrilège de vendre leurs défroques pour en faire des poufs. Monsieur de Goulet, qui depuis quelques instants mordillait sa plume, ne put retenir un murmure. Il déplorait que les églises fussent ainsi dépouillées par des mécréants de leurs richesses artistiques. Le supérieur du grand séminaire reprit avec fermeté. « Laissons donc, s'il vous plaît, monseigneur, le trafic auquel se livre l'ami de monsieur le préfet israélite Worms-Clavelin, et souffrez que j'articule contre le professeur d'éloquence au grand séminaire des griefs qui ne sont que trop précis. J'ai 2 chefs d'accusation. J'incrimine. Primo, sa doctrine, secondo, ses mœurs. Je dis que j'incrimine primo, sa doctrine, et cela pour 4 motifs. Primo, le cardinal archevêque étendit ses 2 bras comme pour éviter tant d'articles. Monsieur Lantaigne, je vois depuis quelque temps monsieur le vicaire général qui mordit sa plume et me fait des signes désespérés pour me rappeler que notre imprimeur attend notre mandement qui doit être lu dimanche dans les églises de notre diocèse. Souffrez que j'achève de dicter ce mandement qui apportera, je l'espère, quelques consolations à nos prêtres et à nos fidèles. L'abbé Lantaigne salua et se retira, très triste. Après son départ, le cardinal archevêque, se tournant vers M. de Goulet, « Je ne savais pas, dit-il, que M. Guitrel fût si ami du préfet, mais je suis reconnaissant à M. le supérieur du séminaire de m'en avoir averti. M. Lantaigne est la sincérité même. J'estime sa franchise et sa droiture. Avec lui, on sait où l'on va. » Il se reprit. « Où l'on irait ?